Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Les peurs jadis en Basse Marche ». Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs, aux ouvrages et aux articles suivants. Louis Peignot, bergère, éternelle bergère. Jules Marouzeau, Une enfance. Paul Lavergne, Récit de l'ancien temps. Et Liberté, Le loup-garou.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
On peut dire que les peurs étaient particulièrement nombreuses jadis en Basse Marche. En fait, depuis le Moyen-Âge, les pouvoirs aiment à inculquer la peur aux hommes pour mieux les gouverner. Aussi, toute une série de peurs apparaissent en fait comme des épreuves envoyées pour punir des crimes de la terre. On a peur de l'inconnu, en particulier de la mort, comme on a peur des pays lointains, et pendant longtemps, le lointain fut souvent très proche. Et des hommes qui en viennent. On a donc peur des étrangers. On a donc également peur de la maladie, des épidémies, de la peste, de la lèpre, ou plus tard de la fièvre typhoïde, des tuberculoses. On a peur de la misère, on a peur de la famine, on a peur de la guerre, des brigands, des pilleurs, des envahisseurs. On a peur des forêts ténébreuses, comme on a en général peur de la nuit, et peur des animaux nocturnes, comme le chat, comme le loup, comme la chouette, le hibou, les chauves-souris. On a peur de l'orage, comme on a peur des eaux dormantes, des eaux stagnantes. On a peur des exclus, des errants, des mendiants, des diseuses de bonne aventure, comme on a peur des revenants, des fantômes, des laveuses de nuit. On a peur des êtres fantastiques, comme le diable, les sorciers et les sorcières, les loups-garous, les martes, etc. Comme on a peur aussi des bêtes fantastiques comme la poule noire, les serpents, le cheval bayard ou la mandragore. Notre objectif dans cette émission d'une vingtaine de minutes n'est pas de vous présenter une étude de ces peurs, mais simplement de vous fournir quelques illustrations de ces peurs.
On ne me demandait pas de saluer les archers du roi. Ils ont commencé la saison en fauchant les moissons avec les sabots de leurs coursiers. Ils sont venus à la maison, ils ont pris les garçons sans demander permission. Je les ai vus courber les chines sous les coups de fouet qui tombaient, cordes d'acier bardées d'épines les mordaient et les saignaient. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
La peur des soldats et des routiers. Écoutons ce récit de Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. Le malheur, comment ne pas le redouter, lui qui rôde sans cesse autour de l'homme des champs en ces temps peu sûrs. La bergère est là, tranquille, dans sa solitude, mais elle ignore ce qui l'attend au village. Elle peut tout craindre. Elle qui a vu tant de maux déjà s'abattre autour d'elle. D'épaisses colonnes de fumée montent soudain dans le ciel. Viennent-elles de la lisière des bois où quelques laboureurs essartent et brûlent pour agrandir sa terre? Ou n'est-ce pas un hameau qui flambe? Bientôt, des cris s'élèvent de toutes parts. Dans la vallée du grand chemin, des soldats passent, pillent, incendient, massacrent. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Et quelle cause servent-ils? Les vilains n'en ont cure. C'est l'affaire de leur seigneur et du roi. Pour eux, quels qu'ils soient, ces hommes d'armes sont des ennemis. D'ici peu d'années, Anna, la bergère de 1346, verra passer des soldats anglais, suivis bientôt des routiers plus dangereux encore. Son troupeau lui sera tout entier ravi un soir sur le chemin du bercail. Les cavaliers ont surgi au détour du sentier pierreux qui dévale vers le village. Immédiatement, ils ont poussé devant eux les bêtes apeurées, tuant à coups d'épée celles qui voulaient fuir et aussi le chien qui a aboyé. Anna, plus heureuse que bien d'autres bergères, a été par hasard épargnée. Elle est rentrée seule au village sans son troupeau. Elle a trouvé des maisons vides. Les hommes, les femmes, les enfants, alertés à temps par les fumées qui montaient des hameaux voisins, ont fui dans les taillis. La bergère n'a plus de troupeau. Des années seront nécessaires pour reconstituer le beau troupeau qui lui fut ravi par les hommes d'armes. Reviendront-ils ? Nul ne saurait le dire dans ces campagnes où les échos du dehors n'arrivent qu'avec quelques errants qui viennent à la tombée de la nuit demander en menaçant parfois le souper et le gîte. Quelquefois, sur le grand chemin passe un montreur d'animaux savants, des faiseurs de tours qui s'en vont vers la ville ou vers le château.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La peur des mendiants et des épidémies. Ces rôdeurs, ces mendiants, innombrables, tordus, loqueteux, crasseux, hirsutes, n'apportent pas que les nouvelles des paroisses éloignées. Un soir, en rentrant des champs, Anna a trouvé, assis sur le banc de bois, devant la porte basse de sa chaumine enfumée, un pauvre hère aux yeux luisants de fièvre. Martial, son homme, compatissant, l'a accueilli et lui a permis de manger la soupe, les châtaignes, les raves rôties sous la cendre. Hélas, le lendemain, l'étranger n'a pu se lever du fenil où il avait passé la nuit. C'est qu'en ce temps-là courait une commune et générale mortalité par universel monde, une maladie qu'on appelle boche ou l'épidémie, qui prenait les aucuns au senestre bras et les autres en laine, et mourait dans les 3 jours. Le mendiant agonise d'un mal redoutable, la peste, en cette matinée de 1348, dans la grange de Martial, dit Marceau, l'époux d'Anna. Martial, qui l'a touché, mourra 3 jours plus tard, et avec lui, 5 voisins et parents du village. La prochaine fois, la peste fera mieux. Elle emportera 3 femmes, 5 filles, 2 garçons. Malgré les ferventes prières pour fléchir la volonté de Dieu au cas où il l'aurait envoyé pour punir des crimes de la terre.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La peur de l'orage. Écoutons d'abord Jules Marouzeau nous décrire l'arrivée de l'orage à Fleurat, dans l'ouest de la Creuse. Après une série énervante de jours torrides éclatait tout à coup le grand drame de l'été, l'orage. Sous le ciel lourd, la terre haletait comme un sein oppressé. Le chien se collait à la pierre surchauffée du seuil. Bientôt, de larges gouttes cinglaient la route en soulevant une odeur de poussière. Puis, une rafale couchait les branches des arbres contre nos vitres, semblables à des mains étalées. Enfin, l'épouvante du tonnerre déchaîné tombait sur le village. Écrasé de surnaturel, on n'osait plus vaquer aux tâches quotidiennes. Mon père, posant son journal, regardait par les carreaux si l'incendie ne s'allumait pas aux granges. Ma mère se signait, les yeux baissés à chaque éclair, et ma grand-mère accusait les coups les plus violents par un « Ah, c'est-il pas Dieu possible ?» Les vitres tremblaient, l'obscurité s'épaississait, faisant plus fulgurant le feu des éclairs. On se sentait poursuivi par une colère incompréhensible de Dieu. Et soudain, c'était comme une grâce. Le prochain éclair attendu dans l'angoisse ne venait pas. Le vent tombait, le tonnerre s'éloignait. En ne laissant derrière lui qu'un grognement bénin de bon gros chien qui a fait le méchant. Quelques vers maintenant d'Émile Verhaeren qui nous expliquent la peur de l'orage chez les paysans des siècles passés. La verse aiguë en fer de lance, elle crépite au flanc des toits, bondit et rebondit sur les tuiles fêtières, cogne les murs des pignons droits et déborde dans les gouttières. Et l'on se signe, à large croix, devant la foudre au fond des fermes. Le métayer, la peur au cœur, regarde au loin sur les éteules, les eaux trouées, les meules, les mordre et battre et ravager le plus rouge pommier de ses vergers. La fermière, qui vient et va, et qui supplie en silence le sort, allume, ainsi que pour un mort, la chandelle bénite à Pâques. Tout le village est tremblement, terreur brandie et panique soudaine. L'eau flagelle les murs et geint et craque et se disloque. Le jour a disparu sous le voile de nuit. La foudre au sud, au nord, déchire l'infini comme une loque. Et dans les clos, la peur augmente encore. Du milieu de la cour, les fumiers d'or débordent. Un étalon s'est détaché, rompant sa corde. Le porc se pelotonne au creux de sa mangeoire. L'arbre, le plus tenace et le plus droit, tombe soudain, la mort aux reins. On dirait que la terre est pleine aussi de feu et de tonnerre. Pour se prémunir contre l'orage, pour éloigner l'orage en basse marche, on place des haches polies ou des haches métalliques dans les murs sur l'état de fumier. Bien sûr, on fait de nombreux signes de croix et l'on asperge la maison d'eau bénite. On allume le cierge de la chandeleur, on place du buis béni sur le toit ou de la joubarbe ou du glaïeul et d'autres fleurs de la Saint-Jean. On fait brûler des herbes sèches, des chiffons de laine. On sort les tisons de la Saint-Jean ou de la bûche de Noël et on fait sonner les cloches, etc., etc. L'orage est peut-être provoqué par la colère de Dieu, c'est ce que nous disent les vieilles personnes. Mais ce sont peut-être les sorcières, enfin certaines sorcières, qui provoquent l'orage. C'est ce que nous explique Paul Lavergne dans ce récit extrait des récits de l'ancien temps, La faiseuse d'orage. À un certain endroit, pas très loin d'ici, il y avait une femme qui pouvait déclencher l'orage. Elle n'était pas du pays. Elle ne voulait pas dire d'où elle venait. Elle se rendait au bord d'une mare, et à mesure qu'elle en faisait le tour, on voyait de petites flammes s'allumer sous ses pas. Ces lumières la suivaient au ras de terre, comme des bougies tenues par des nains. Quelquefois, elle volait dans l'air tout autour d'elle. Alors, la femme commençait à taper dans l'eau avec une baguette, en chantant d'une voix rauque un sortilège dans une langue incompréhensible. En même temps, elle se balançait comme pour entrer en transe. Aussitôt, le vent se levait, les nuages montaient, les éclairs fendaient le ciel, le tonnerre roulait, la pluie et la grêle se déchaînaient. La femme était contente, elle riait. Pour arrêter l'orage, elle devait faire le même manège, mais prononcer les mots en sens contraire. Une nuit de grande tempête, cette femme disparut du pays. On ne sut jamais ce qu'elle était devenue. On supposa que le diable l'avait emportée. La forêt ténébreuse a toujours inspiré la peur. D'abord parce qu'elle est souvent immense, qu'on n'en connaît pas bien les limites, qu'une petite partie seulement est régulièrement fréquentée. C'est aussi dans cette forêt profonde que se regroupent les loups. Et pour ma part, je me souviens des frayeurs qu'exprimait ma grand-mère lorsqu'elle parlait de la forêt du Bois Cornu où se regroupaient les loups dans la commune de Vareille. Depuis toujours, ceux qui avaient maille à partir avec la société se mettaient hors de portée des gens de justice et éventuellement de la potence en se cachant dans la forêt. Nombreux sont ceux qui passèrent leur vie cachés dans la forêt, à l'abri de la loi et des châtiments. Et comme malgré tout, il leur fallait bien vivre, ils détroussaient les voyageurs et pillaient les villages proches. Ces pirates de la forêt étaient aussi le sujet de nombreux récits reposant sur des histoires vécues, mais souvent bonifiées par le temps. Au bois de la Fouillouse, il y a 20 voleurs, il y a 20 voleurs, pèlerin, rin, rin, pèlerine, il y a 20 voleurs. En effet, quelques-unes de nos forêts devaient leur renommée aux bandes de brigands qui séjournaient. Dans la forêt, on trouve aussi des travailleurs un peu exclus par leur métier, comme les charbonniers, ou des marginaux, comme les braconniers.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La peur des bandits de grand chemin. Lorsque la nuit on quitte le bourg pour se rendre dans sa chacunière, que l'on doit traverser la forêt profonde ou des carrefours mal famés, alors la peur vous étreint, surtout lorsqu'on approche d'un lieu dit Maupas, Maupertuis, Malicorne, Malirorne, l'Auberge Rouge ou le Méfie-toi. Mais les fameux bandits de grand chemin sont souvent bien plus proches que l'on croit. Voici le récit que nous fait Paul Lavergne des brigands de Champzigo. Le domaine de Champzigo, entre Bellac et Mézières, était, il y a bien longtemps, un repère de brigands. Personne ne s'en doutait. Durant le jour, ils cultivaient la terre, mais la nuit, ils s'embusquaient dans les brandes et au coin des bois pour détrousser les voyageurs. Le grand chemin du roi, semé de fondrières venant de Mézières, passait par les trous des chevaux, la Tuilière, les fosses, Champzigo, et se dirigeait vers Bellac par l'étang rompu, la Croix de la Pile et Châtaignier. Tous endroits qui, comme leur nom l'indique, étaient assez sauvages et même sinistres, cette Croix de la Pile ne marquait-elle pas l'emplacement d'un gibet? Une fois, les gens de Champzigo devaient recevoir à la veillée ceux des fosses. Ces veillées de jadis constituaient toujours de grandes réjouissances. Elles étaient une des meilleures façons d'entretenir les relations de village à village ou de métairie à métairie. Ceux des fosses vinrent donc en s'annonçant par de joyeux ifoufou. Mais à la maison, ils ne trouvèrent que les femmes. Ils s'étonnèrent. Les femmes, gênées, dirent que les hommes n'avaient pas fini de soigner le bétail, mais qu'ils ne tarderaient pas. Les autres patientèrent, on leur versa du cidre. Cependant, l'entrain n'y était pas. Ah, ils mettent bien longtemps, dit l'un. Ah oui, mais c'est sans doute que la rosette est en train de véler, dit la femme, de plus en plus gênée. Ah, ils ont peut-être besoin d'aide, on va aller leur donner un coup de main. Ah non, 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 ne vous dérangez pas. C'était pour le moins bizarre. Enfin, un des hommes entre, tout essoufflé, ne sachant que dire, mais on se rendait compte qu'il était dans un émoi hors de proportion avec la mise bas d'une vache. Et ton père, a-t-il bientôt fini? La rosette est-elle délivrée? Oui, il va venir. En réalité, il avait été tué d'un coup d'épée par le cavalier qu'il tentait de détrousser. Le fils l'avait rapporté sur son dos et caché dans la grange en attendant le départ des voisins. La vérité finit par être connue et la consternation fut grande dans le pays, car personne n'aurait soupçonné de malfaisance les métayers de Champzigo. Et par la suite, lorsque tombait la nuit sur le grand chemin solitaire, les petites bergères terrorisées craignant d'être attaqués par des bandits, se dépêchaient de rentrer leurs vaches ou leurs brebis.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Il est des lieux tristes et lugubres qui de même provoquent la peur. C'est le cas de ce hameau de la Borderie près de Bellac que nous décrit Héliberté dans son roman Le Loup-garou. À quelques distances de la petite ville de Bellac, dans un pays solitaire et sauvage, s'élevait il y a une trentaine d'années une ferme isolée dont l'extérieur délabré et malpropre offrait à l'œil un spectacle attristant. Les bâtiments irréguliers qui composaient cette exploitation étaient situés au fond d'une vallée rocailleuse, entourée de collines qui produisaient seulement des ajoncs et des fougères. Le rocher saillait de toutes parts aux environs, à travers une couche de terre maigre et sèche, et il était évident que l'on avait voulu utiliser en bâtissant là et non ailleurs un sol ingrat que l'agriculture avait abandonné. Toujours est-il que les abords de la Borderie, c'est ainsi que s'appelait la ferme, étaient tristes et stériles. Le bâtiment lui-même, comme nous l'avons dit, n'avait rien qui égayât le paysage dont il était le centre. Le toit, très bas et à tuiles courbes, était soutenu par des murailles de pierre fruste sur lesquelles n'avait jamais été appliqué aucun crépi de plâtre ou de chaux. Les fenêtres n'étaient que d'étroites lucarnes, dont quelques-unes encore bouchées avec des poignées de paille, comme si l'on eût redouté dans l'intérieur une trop grande quantité d'air ou de lumière. Une couche épaisse de bruyère couvrait le sol en avant de la porte principale et macérait dans une eau stagnante et fétide. De grossières charrettes, des instruments de labourage hors de service encombraient en tout temps cette entrée, conjointement avec d'ignobles étables en terre, couvertes de tuiles cassées et dont sortaient d'ordinaire des grognements peu harmonieux. Mais ce soir-là, il y a pourtant de la gaieté à la ferme de la Borderie. C'est une veillée particulière organisée avant le départ des conscrits. On y boit, on y danse, on y chante. On y écoute aussi les histoires effrayantes des sorciers, de la poule noire et même du loup-garou. On a encore ces histoires effrayantes en tête lorsqu'on quitte la ferme de la Borderie pour rejoindre sa chacunière. C'est alors qu'une vieille femme déclare au petit groupe qui plaisante pour se donner du cœur « Ne riez pas tant et prenez garde que le bon Dieu vous punisse. Nous sommes dans le temps de l'Avent et nous n'avons pas encore passé le carrefour des quatre chemins où tous les sorciers du pays viennent faire leur sabbat pendant des nuits comme celle-ci. » Je poursuis le récit des libertés. « Si le loup-garou vient, s'écria un fier à bras de l'arrière-garde en agitant la torche d'un air de défi, nous le grillerons dans sa peau. Sur le salut de votre âme, Martial, taisez-vous, reprit la meunière avec épouvante. Ma pauvre nièce tremble comme une feuille et j'ai peur qu'elle ne puisse bientôt nous suivre. Et un peu plus tard, que voyez-vous? Demandèrent encore plusieurs voix effrayées. « Quelque chose nous suit !» murmura le jeune homme en élevant le flambeau au-dessus de sa tête pour voir plus loin. On fit halte pour reconnaître ce qui avait pu alarmer l'incrédule Martial. On prêta l'oreille et l'on put distinguer un bruit de pas précipités dans la partie du chemin que la bande venait de parcourir. La terreur fut à son comble. Tout à coup, une horrible apparition se montra dans la sphère lumineuse projetée par les torches. C'était un animal étrange, de la hauteur d'un homme de grande taille, se tenant debout et marchant avec rapidité. Il était couvert de poils roux comme le loup-garou des traditions, son mufle ressemblait à celui d'une bête féroce et il montrait de grandes dents blanches comme de l'ivoire. Il avançait vers les spectateurs comme pour s'élancer sur eux. Des signes de croix furent faits et l'on murmura des prières pour conjurer cet être surnaturel. On espérait qu'il allait s'éloigner après cette bordée d'exorcismes, mais le loup-garou s'avança toujours du même pas, et lorsqu'il fut près de la troupe, il éleva les bras armés de griffes formidables et fit entendre une espèce de grognement sourd et menaçant. Alors, la frayeur ne connut plus de bornes. Hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles se mirent à fuir en désordre de toute leur vitesse en poussant des cris perçants. Les porte-flambeaux avaient laissé tomber leurs torches afin de ne pas être gênés dans leur course. Et tout le carrefour resta dans une obscurité profonde. Suzette était cramponnée au bras de sa tante. Ni l'une ni l'autre n'avaient la force de pousser un cri, et elles couraient machinalement de toute leur vitesse, mais sans pouvoir suivre leur compagne qui déjà les devançait de fort loin. Ce fut alors que la lourde patte velue du loup-garou s'abaissa sur l'épaule de Suzette. Pauvre fille poussa un cri déchirant et tomba évanouie sur le gazon qui bordait le chemin. En entendant ce cri, en sentant sa nièce chanceler, Jacqueline tourna la tête et elle aperçut l'horrible bête. Cette vue lui donna de nouvelles forces. Elle dégagea brusquement son bras de celui de sa nièce et elle continua sa course en laissant Suzette au pouvoir de l'apparition. Une mère, elle, fut restée. Alors rassurez-vous, la petite Suzette réussira à s'échapper vivante des terribles griffes du loup-garou, réel ou inventé, mais ce n'est peut-être que partie remise.
Il a dit salut le jour, adieu la caverne. Il a dit salut le jour, le soleil bonjour. Il a semé le maïs et le blé superbe. Il a dit je veux un fils, il a fait l'amour dans l'herbe. Mais les quatre cavaliers ont brisé sa tête, ont brûlé son champ de blé, puis s'en sont allés. Son fils est venu par les chemins du temps. Ma terre, oh ma mère.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, intitulée aujourd'hui « Les peurs, jadis, en basse marche ». J'ai bien conscience de n'avoir traité qu'une infime partie de cette question. Ce sera l'occasion d'autres émissions. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Louis Peignot, de Jules Marouzeau, d'Émile Verhaeren, de Paul Lavergne et des Libertés. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à Camille Saint-Saëns, à Mozorski, à Andrew Lloyd Webber, au groupe Maluzerne, aux chanteurs Jean Cordon et Henri Gougo, qui nous interprètent en ce moment les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Cavaliers de l'Apocalypse ont allumé le brasier au ciel étoilé. Son fils est venu dans la nuit sans chemin. Ma terre, oh ma mère, rendez-moi le matin. Il a dit salut le jour, adieu la caverne. Il a dit salut le jour, le soleil bonjour. Il a semé le maïs et le blé superbe. Il a dit je veux un fils, il a fait l'amour dans l'herbe. Mais les quatre cavaliers ont brisé sa tête, ont brûlé son champ de blé. Puis
les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.